Au téléphone avec nous, Raphaël Tournier, qui est doctorant en deuxième année dans le cadre d'une thèse MITI-CNRS. Il va nous expliquer ce que c'est, pluridisciplinaire, en partenariat avec l'UGA, l'Université de Grenoble-Alpes. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Alors tout d'abord, on va expliquer pourquoi on vous reçoit au téléphone dans les studios de Divergence aujourd'hui. C'est que Divergence diffuse depuis plusieurs années maintenant les chroniques Rift, qui parlent du Rift Est-Africain. C'est Christelle Tibéry qui est à la manœuvre de ce podcast sur Divergence. Et on essaye un petit peu de montrer au travers de ces podcasts l'interdisciplinarité qu'il peut y avoir dans les domaines de la science, et notamment dans ce domaine sur le Rift Est-Africain. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le MITI-CNRS ?
Alors, MITI-CNRS, en fait, c'est un type de bourse qui permet de faire des doctorats. Oui. C'est-à-dire que il y a des offres de thèse qui sont à visée pluridisciplinaire. Alors, MITI, j'avoue que l'organigramme, je ne sais plus exactement quels sont les mots derrière, oui. Mais l'idée, c'est que ce sont des projets pluridisciplinaires. Mmh. Qui sont portés par des chercheurs, notamment mes encadrants, oui. Pour financer des recherches et des doctorats. Et c'est un projet auquel j'ai candidaté. Voilà.
Alors, votre sujet de thèse porte sur la dispersion des hominines dans le paysage changeant du Rift Est-Africain. Alors, ma première question, ça va être... Pourquoi vous partez là-dedans? Qu'est-ce qui vous a donné envie? Est-ce que c'est une envie depuis que vous êtes petit de partir sur ce domaine, ou c'est une découverte au fil de vos études?
Alors, un petit peu des deux, j'ai envie de vous répondre. La première chose, c'est le côté paléontologie, le côté oui. Archéologie, recherche. Je l'avais quand j'étais petit, comme beaucoup de petits garçons de mon âge, j'imagine, et de petites filles aussi d'ailleurs. Aller chercher des dinosaures, Jurassic Park, aller dans le jardin. Donc ça, c'était la première idée. Et oui. J'ai poursuivi dans des études entre la biologie et les sciences de la Terre, toujours au cours de mon cursus.
Oui.
Et il se trouve que ce sujet mêle totalement les deux. J'ai effectué des stages dans des domaines plus ou moins proches ou plus ou moins éloignés. Mais quand j'ai vu l'offre de projet, dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh ben, je trouvais que beaucoup de cases étaient cochées par rapport à ce que j'avais déjà fait, ce qui m'intéressait. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas. Voilà.
Oui, parce qu'on peut dire que votre travail, on va l'expliquer un petit peu plus après, mais votre travail regroupe la paléanthropologie ainsi que des méthodes de modélisation. Expliquez-nous tout ça.
Oui, alors totalement. C'est-à-dire que c'est un peu la spécificité de ce projet, c'est que contrairement aux grandes méthodes classiques de paléoanthropologie, qui consistent beaucoup à aller sur le terrain, à aller rechercher les ossements, donc on imagine totalement les campagnes de fouilles en Afrique, donc au Kenya, au niveau du lac Turkana, c'est des zones qui sont très connues, nous on essaye d'utiliser les résultats de ces domaines-là, mais de combiner ça avec d'autres approches qui sont plus issues de modèles de sciences de la Terre, ou voire de biologie de l'évolution.
Oui.
Pour essayer de comprendre comment utiliser ces informations que le terrain nous donne d'une autre manière, peut-être pour trouver des résultats différents, peut-être pour avoir des choses complémentaires. On est en train d'explorer.
Et là, vous avez quelque chose d'assez grand à explorer, puisque c'est le système du Rift Est-Africain, souvent qualifié berceau de l'humanité.
Exactement, c'est-à-dire que là, l'idée, c'est de travailler sur cette zone géographique très spécifique qui est le Rift Est-Africain, qui est très étudiée, mais je dirais aussi que là, spécifiquement, nous, on se base sur les résultats qu'on a trouvés au Rift Est-Africain, pardon, pour un petit peu prolonger ça, même sur toute l'Afrique. En fait, ce qu'on veut faire, c'est essayer de comprendre si les choses qu'on voit dans le Rift, c'est-à-dire la présence de ces hominines, de ces premiers éléments du groupe des hominines, ces résultats fossiles, est-ce que c'est spécifique au Rift? Est-ce qu'il n'y en aurait pas à d'autres endroits? Qu'est-ce qui pourrait expliquer nos résultats en fait sur le terrain?
Et alors, comment ça se passe? C'est donc vous allez sur le terrain, vous faites des prélèvements, des fouilles, mais j'imagine que le côté numérique, vous vous adossez peut-être sur des technologies nouvelles, les satellites, les lidars, les choses comme ça?
Alors c'est très combiné. Alors, je trouve que moi sur le terrain, pour l'instant, je n'y suis pas encore allé, mais normalement c'est prévu pour cet été. Donc énormément de collègues et de partenaires y sont beaucoup allés, donc on utilise leurs résultats parce qu'il faut quand même aussi réduire les déplacements non nécessaires.
Oui.
Mais d'un point de vue méthodologie, après on utilise pas mal de nouvelles technologies, effectivement. Alors, pas forcément hyper novatrices, mais c'est surtout que la recherche des collègues nous donne accès à énormément de bases de données, de choses qui ont été faites. Et nous, on essaye un petit peu de combiner différentes choses. Donc, effectivement, des cartes de la topographie, de l'altitude en tout point de l'Afrique, les cartes des endroits où ont été repérés des événements géologiques particuliers, ce genre de questions. Et après, on utilise, oui, quand même des centres de calcul informatiques assez poussés qui ont un coût aussi d'un point de vue énergétique. Et donc, on a une approche mixte, en fait.
Et j'imagine qu'avec les nouveaux centres de calcul de plus en plus rapides, vos recherches vont très rapidement progresser.
Alors, l'approche que moi j'utilise, elle n'est pas très coûteuse. En réalité, ça va. En fait, c'est avec un ordinateur personnel, quelqu'un pourrait, en prenant, ça prendrait plus de temps évidemment, mais ce serait faisable. Donc nous, on est sur des échelles qui restent quand même très raisonnables. C'était aussi important pour moi de pas partir énormément dans des domaines très très poussés là-dedans. C'est pas forcément ma priorité, mais oui, effectivement, c'est vraiment, ça sera possible de travailler plus vite et pour plus de monde, peut-être.
Et alors, parlons du résultat un petit peu de vos recherches. Qu'est-ce que vous constatez dans ce rift est africain qui, on peut dire, est une photographie d'il y a plusieurs millions d'années, on pourrait dire ça?
Tout à fait. En fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est que l'idée générale derrière ce qu'on fait, c'est que ce système, ce rift est africain, c'est l'endroit où on a trouvé les fossiles des plus anciens hominines.
Oui.
Et la réalité, c'est que ce que l'on y voit actuellement n'est peut-être pas exactement la façon dont ce rift était il y a plusieurs millions d'années. Mmh. On parle d'espèces qui peuvent avoir 5 millions d'années, 3 millions d'années. Et du coup, moi, j'essaye de reconstruire comment était géographiquement le paysage en réalité, au moment où ils vivaient, et non pas actuellement, au moment où on les trouve. Et en fait, entre les deux, il a pu se passer énormément de choses. La préservation des fossiles, la montée de certains reliefs, la descente de certains autres reliefs, le changement de cours de fleuve. Et en fait, on essaye de voir si il y a une spécificité qui pourrait expliquer qu'on a trouvé tous ces fossiles à cet endroit-là, ou si en réalité, il peut y avoir d'autres biais. On essaye d'explorer ces questions-là.
Et ça, j'imagine que ça vous pousse à découvrir comment les vivants vivaient à cette époque-là, avec des migrations, j'imagine, puisque certains fleuves ne s'écoulent plus au même endroit. Qu'est-ce que vous relevez au niveau de la faune et de la flore qui existait à cette époque et de son évolution?
Alors tout à fait. Donc ça c'est la deuxième partie du travail. Donc la première consiste à reconstruire un peu l'aspect physique, c'est-à-dire vraiment voir où était, quelle température, quel climat, etc. Et ensuite, essayer d'y mettre des modèles justement de dispersion, de déplacement, qui sont là cette fois-ci surtout issus de l'écologie. Et qu'est-ce qu'on peut y voir? On se doute que par exemple le changement de certains reliefs a pu permettre le passage d'une zone à une autre.
Oui.
Alors on n'a pas de résultats sûrs parce qu'évidemment on ne fait que des possibilités. Et maintenant il faudrait trouver des choses pour vérifier. Mais on imagine que l'histoire est peut-être plus compliquée que ce qu'on avait communément admis d'une présence uniquement à l'est de l'Afrique.
Oui.
Peut-être qu'en réalité, les hominines étaient beaucoup plus dispersés sur toute l'Afrique et que la photographie qu'on obtient actuellement vient de la préservation et de ce genre d'autres biais en fait.
Est-ce que dans le monde il y a d'autres sites, enfin si on peut appeler ça des sites, c'est tellement grand, qui, comme le rift est africain, où vous pourriez mener ce genre de recherche?
Alors il se trouve que ce projet il a été inspiré par le travail que mon encadrant de thèse a un petit peu réalisé, lui au niveau de l'Australie, il se trouve que certains des groupes d'hominines qui, une fois avoir effectué une dispersion en dehors de l'Afrique, sont allés très rapidement au niveau de l'Indonésie et vers l'Australie.
Oui.
Et dans ces zones-ci, la reconstruction du passé environnemental est moins complexe, mais on se posait des questions sur les chemins de dispersion, c'est-à-dire des passages au nord ou au sud. Et suite à des approches un petit peu comme ce que je fais là, avec évidemment pas mal de différences, il a pu essayer de démontrer, et d'autres chercheurs ont pu essayer de démontrer que certains passages de dispersion avaient pu être privilégiés par rapport à d'autres. Donc ça peut se faire sur d'autres endroits, comme ceci, mais l'Afrique reste une des questions les plus historiques, puisque c'est l'endroit où on a trouvé les plus anciens, c'est une zone géographique beaucoup plus vaste, donc c'est pas la même échelle, on va dire.
Et j'imagine que pour mener à bien vos recherches, on est en plein dans l'interdisciplinarité, parce que là, ça regroupe tellement de champs de recherche que vous êtes obligé de travailler avec vos collègues.
Ah, exactement, c'est-à-dire que dans ce projet, donc moi je suis le doctorant pour préparer ma thèse qui est financée par ce sujet, mais autour de nous, il y a beaucoup d'encadrants qui ont tous des spécialités très différentes. J'ai travaillé donc dans des premiers temps avec des géologues, avec des géophysiciens, ensuite j'ai travaillé aussi avec un collègue en Australie qui lui travaille sur l'érosion et les réseaux de drainage. Là, je sors d'une. J'ai effectué quelques jours de voyage au nord de la France pour travailler avec un collègue qui lui fait de l'évolution et des niches écologiques. Donc, c'est vraiment quelque chose de très très pluridisciplinaire et c'est aussi ce qui est séduisant dans ce sujet, moi, je trouve.
Ouais. Et alors, un des buts de cette chronique sur Divergence, c'est de susciter des vocations. Expliquez-nous un petit peu rapidement votre parcours pour donner envie aux jeunes filles et aux jeunes garçons d'exercer ce genre de métier.
Oui, bah oui, effectivement, c'est vrai que c'est des métiers qui sont super sympas. Alors moi j'ai eu un cursus très classique d'un point de vue études. Donc j'ai fait un lycée il y avait encore les spécialités, donc moi j'ai fait un bac scientifique. Ensuite je suis entré, j'ai fait des classes préparatoires pour rentrer à l'ENS à Paris. Et une fois dans cette école, là j'ai beaucoup hésité entre les sciences de la vie et les sciences de la terre, ce qui fait que j'ai un petit peu navigué entre les deux en finissant avec une licence de sciences de la terre et un master en sciences de la vie, que j'ai pas fait dans le bon ordre d'ailleurs. Et finalement ensuite j'ai poursuivi en passant aussi un concours d'enseignement l'année dernière, il y a 2 ans pardon, d'agrégation. Et maintenant, j'ai enchaîné sur ce projet de recherche. Mais dans tout ce que j'ai fait là, il y a beaucoup de choses qui sont accessoires pour le passage, le concours d'enseignement, passer par l'école spécifique de l'ENS n'était pas du tout nécessaire. Mais moi, c'est comme ça que ça s'est fait.
Oui, mais je trouve que c'est plutôt bien. Ça montre que ce genre de métier n'est pas fermé et qu'au contraire, plus on maîtrise certaines disciplines et plus ça apporte à ce métier, d'où l'interdisciplinarité. J'imagine qu'il faut connaître un petit peu de chaque recherche de son collègue pour comprendre soi-même les recherches que l'on va faire avec eux.
Totalement, et puis il faut être intéressé surtout. Pour faire des métiers de ce type, moi je pense que, après j'ai peu d'expérience évidemment, comme je suis que doctorant, mais moi je pense que le plus important c'est d'être intéressé, d'être un petit peu curieux de savoir ce qui se fait, ce qui peut se faire, ce qui a existé, parce que c'est vraiment moteur tous les jours dans ce travail de regarder, ah mais là je viens de trouver, certains chercheurs ont fait ça, c'est intéressant, quelle nouvelle méthode existe. C'est une curiosité, en fait, plus que des diplômes avant.
En tout cas, Raphaël Tournier, c'était passionnant de vous entendre. Je rappelle que vous êtes doctorant en deuxième année dans le cadre d'une thèse MITI au CNRS pluridisciplinaire en partenariat avec l'UGA, l'Université Grenoble-Alpes. On se retrouvera après votre thèse pour que vous nous expliquiez vos prochains domaines de recherche.
Oui, bah, avec grand plaisir. C'était aussi très sympathique. Et puis, j'espère pouvoir vous en dire plus lorsqu'on aura peut-être trouvé des nouvelles choses.
Merci.
Bon, merci, au revoir.